Si vous êtes au courant de toutes les informations concernant l'équipe de Dark Side of the Prog, nos recommandations du week-end ou encore l'avancée de nos futurs épisodes, nous vous invitons vivement à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, les liens sont en description. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dark Side of the Prog, le tout premier épisode de Dark Side of the Prog, l'émission qui vous parle de musique progressive et progressiste avec passion et un peu de mauvaise foi. Aujourd'hui, et comme pour les futurs épisodes, je suis accompagné du plus bel homme de la région PACA, Léo. Bonsoir Léo.
Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Léo. Et du coup, j'ai mes chevilles qui enflent.
Tendre je suis agent immobilier, je cherche une copine. Ah, non, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça.
Ou la référence internet de les années 2017.
Donc voilà, je prends peut-être le melon, mais c'est faux, en fait.
Comme Walter Melon, excellent. Donc comme vous l'avez compris, nous sommes une bonne bande de rigolos. Et donc aujourd'hui, pour ce premier épisode de l'émission, nous avons décidé de vous parler de rock progressif, et plus particulièrement des bases du rock progressif. C'est-à-dire des albums qui ont marqué au fer rouge la première vague de rock progressif, c'est-à-dire à la toute fin des années 60 et au début des années 70. Et donc déjà, je vais te poser la question, Léo, est-ce que tu as un point d'attache particulier avec le rock progressif? Est-ce que t'as un truc, genre t'écoutes ça depuis que, je sais pas, t'as eu un traumatisme, ou est-ce que t'écoutes juste ça parce que ça t'a kiffé?
Alors, si j'avais un traumatisme, en fait, je ne serais pas là. En fait, c'est juste le style de musique que je préfère, que ce soit rock ou metal progressif. C'est le genre de musique, voilà, c'est ce que je préfère. Et j'en écoute depuis que je suis tout petit parce que mon père est fan de Genesis, de Pink Floyd, de Marillion,
toutes les choses. Et ben, on est deux.
Effectivement, ouais.
Bon, moi, c'est pas Marillion et Pink Floyd, c'était plutôt Dream Theater au départ, mais sinon, c'est à peu près la même chose.
C'est un peu moins bien, mais on va pas le dire.
Et oui, je vous ai pas menti, j'ai parlé de mauvaise foi tout à l'heure. Pour ne pas vous dire de quels albums on va parler ensuite, on va tout d'abord vous parler du premier album de rock progressif de l'histoire, en tout cas qui est considéré par la plus grande majorité du public comme le premier album de rock progressif de l'histoire, King Crimson, à savoir l'album In the Court of the Crimson King. Enregistré entre juin et août 1969 à Londres dans les studios Wessex, In the Court of the Crimson King est sorti le 10 octobre 1969 sous différents labels, à savoir Island et EG, qui sont respectivement liés à Universal Music et EMI. Pour ce qui est du territoire britannique, l'album est sorti chez Atlantic, qui est une filière de Warner Music, et pour notre bonne vieille France, il est sorti sous le label Polydor. Comme je l'ai dit auparavant, l'album est considéré comme le tout premier album de rock progressif de l'histoire de la musique, ce qui est quand même une sacrée réputation, surtout quand on connaît le statut culte qu'il a acquis avec les années. Bon, c'est bien, on va parler de musique, hein, mais parlons un peu de Tunas. Il a eu un énorme succès commercial, encore aujourd'hui il a un très gros succès commercial, que ce soit par exemple par la recrudescence des ventes de vinyles, où les vinyles de cette période-là se vendent beaucoup, parce que c'est vintage, tout ça. Il a aussi eu un énorme succès critique, et encore aujourd'hui, il est considéré comme un classique, comme un chef-d'œuvre. Commercialement parlant, il s'est retrouvé à la 28e place des charts américains, qui pour un album autant de niche à l'époque est vraiment pas mal du tout, en tout cas c'est une performance qui est vraiment très honorable. Mais surtout, l'effet de guerre vont arriver maintenant, parce qu'il a réussi à se placer à la 5e place du classement britannique, et surtout le fait d'armes assez monstrueux par rapport à cet album et par rapport à un début de groupe, hein, je le rappelle, c'est le premier album du groupe. Il a réussi à détrôner sur le territoire japonais l'album des Beatles Abbey Road. Donc déjà, on pose le décor, c'est-à-dire que c'est un album qui est cultissime absolument partout dans le monde, surtout pour les fans de rock progressif hein, comme Léo et moi. Parlons maintenant du line-up. Alors le line-up, alors King Crimson a une histoire très particulière avec les line-up, et je vais demander juste une question à Léo. Peux-tu expliquer les personnes qui nous écoutent, aux personnes qui nous écoutent plutôt, pourquoi c'est particulier les line-up chez King Crimson?
Parce que, comment dire, on va dire que actuellement le groupe existe encore, c'est plus un groupe de live qu'un groupe d'album, parce que le dernier album date de 2003, et en fait il ne reste qu'un seul membre, qui est Robert Fripp, qui est en fait le seul membre qui reste de cet album-là, et surtout que c'est un mec qui est tyrannique, en fait, qui est limite tyrannique, et si tu fais ce que tu veux, tu fais ce qu'il veut, ou tu te casses, en fait. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont fait virer, ou qui sont partis volontairement, voilà, il reste que Robert Fripp actuellement.
Effectivement, quand on regarde l'évolution un petit peu des line-up du groupe à travers sa carrière, alors déjà, il y a eu une grosse pause de King Crimson, et à un moment, Robert Fripp, donc, a dissous le groupe, mais c'est pas la question, je divague,
vague.
Et oui, donc je dis vague. Donc beaucoup de changements de line-up, beaucoup de mouvements. Pour cet album-là, donc on retrouve Robert Fripp à la guitare. Donc pour le coup, Robert Fripp, c'est la tête pensante en termes de musicalité. Ça va être le cas pendant toute la carrière du groupe. Et même encore aujourd'hui, Robert Fripp est considéré comme une des grosses têtes de la scène progressive. Pour l'accompagner sur cet album, on retrouve Ian MacDonald à la flûte, à la clarinette, au vibraphone, aux différents claviers et au mellotron. Ian MacDonald, qui après son apparition sur cet album-là, travaillera plus tard avec Ian Lloyd, qui est un nom qui n'est pas forcément très connu, mais il travaillera avec un autre nom qui lui est très 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 connu parce qu'il a bossé dans un groupe qui est absolument cultissime et dont on aura pu parler aujourd'hui d'ailleurs. Je parle de Steve Hackett, l'ancien guitariste de Genesis.
Oui, mais du coup, on a parlé de groupes que je trouve meilleurs que Genesis personnellement. Voilà, c'est un petit tacle aux fans.
Petit tacle aux fans, surtout ceux qui aiment la période pop avec Phil Collins au chant. Voilà, cette période-là, c'est vraiment pas bien.
Ça dépend, il y a des trucs pas mal quand même.
Ensuite, pour accompagner Robert Fripp et Ian MacDonald, on retrouve Greg Lake. À la basse et au chant, on en parlera plus tard, mais Greg Lake, un bassiste et chanteur du coup, qui s'est improvisé chanteur plus qu'autre chose sur cet album-là, qui a un timbre de voix très particulier, et qui plus tard bossera avec ELP, donc Emerson, Lake & Palmer, aussi un autre groupe dont on aura pu parler aujourd'hui, et avec Keith Emerson lors de son projet solo. À côté, on a Michael Gills, à la batterie, donc lui qui bossera plus tard avec Ian MacDonald, donc le flûtiste, clarinettiste, vibraphoniste, claviériste, bref, de cet album, sur un projet solo, donc plutôt du coup en duo. Et donc, on retrouve pour le dernier membre à part entière de cet album, et pas des moindres parce qu'il est extrêmement important, Peter Sinfield, donc, qui va signer les textes de l'album et qui plus tard bossera pour le projet solo de MacDonald et Gills, Emerson, Lake & Palmer, ou encore Greg Lake, qui est lui aussi un membre de Emerson, Lake & Palmer. Alors Léo, je vais te poser déjà une première question, je suppose que tout le monde connaît la réponse, mais qu'est-ce que tu penses de cet album ?
Alors déjà, je vais passer un petit disclaimer par rapport à cet épisode-ci. Les trois albums en fait, dont on parle, ça fait partie ils sont dans mon top 10 de mes albums. Et du coup, c'est un peu, voilà, c'est un de mes albums de cœur. Puis voilà, quoi, j'ai mis du temps à l'apprécier, parce que je l'ai connu, j'avais 10 ans, et j'étais pas prêt en fait, et très longtemps j'ai rejeté l'album en disant oh, « Non, en fait j'aime pas ». Et je l'ai réécouté il y a quoi, il y a un an et demi à peu près. Et du coup, j'ai redécouvert l'album, j'ai fait « Non mais, c'est quoi ces conneries? C'est trop bien !» Je vais le poncer jusqu'à la mort. Hein. Et voilà, du coup, je suis amoureux de ce scud, parce que c'est un scud qui est pas forcément joyeux, parce que ça parle de mort, de dépression, de plein de joyeuseté, mais c'est une musique qui est tellement touchante, prenante, autant par les textes, d'une variété folle aussi. C'est un super album. Et en fait, sans cet album-là, le rock progressif, même la musique en général, ne serait pas ce qu'elle est en fait aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de fou en fait.
Et pour le coup, tu parlais des textes et des thèmes qui sont abordés à travers l'album, donc je tiens à préciser que l'album n'est pas un album concept, malgré le fait que certains thèmes abordés se croisent autour de l'album. Cependant, je trouve que les textes et la musique ne vont pas forcément tout le temps ensemble. Y a des moments où c'est très épique et en fait, ce que raconte le morceau n'est pas forcément. Mais par contre, il est vrai que c'est un album qui est précurseur, parce que c'est un album, donc, comme on l'a dit, qui est considéré comme le tout premier album de rock progressif de l'histoire. Et donc, ça peut paraître, quand on le découvre après m'avoir comme ça, assez brouillon, assez bordélique, ouais, le mot est bien choisi, assez bordélique. Pour le coup, le morceau qu'on va passer, c'est c'est I Talk to the Wind, pardon. Mais le morceau d'ouverture de l'album, qui est un des deux morceaux, pour moi, l'un des deux morceaux absolument cultes de l'album, donc à savoir donc, le morceau d'ouverture 21st Century Schizoid Man et le morceau de clôture de l'album In the Court of the Crimson King. In the Court of the Crimson King, c'est un morceau qui va être très, très logique, qui va être très cohérent tout son long. Par contre, 21st Century Schizoid Man, je trouve que c'est un morceau qui est entre guillemets plus incohérent parce qu'il va mélanger beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est déjà un morceau qui est deux fois plus précurseur que les autres, à mon avis, parce que déjà, c'est le tout premier morceau entre guillemets de rock progressif de l'histoire de l'industrie musicale, pardon. Mais c'est aussi un morceau qui, dans sa première partie, va être presque du métal avant l'heure, avec un riff très 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 lourd, basé sur des power chords tout simples. Et ça va vraiment être un morceau qui va être divisé, pour moi, il est divisé en deux parties distinctes. C'est-à-dire qu'il y a la première partie qui va être très lourde, et l'autre partie où ça va être vraiment un défouloir complet, où ça va être limite du free jazz. Je sais pas ce que t'en penses là-dessus, Léo.
Oui, c'est totalement, c'est un truc que je voulais dire, c'est que... faut savoir qu'à la base aussi les musiciens c'est pas des musiciens de rock, hein, c'est des musiciens de jazz. Et du coup on va retrouver cette influence jazz et même classique et baroque, parce que c'est ça l'idée de base du rock progressif. C'est que tu prends le rock et tu mélanges la musique classique et au jazz, et du coup ça va donner cet album là et le rock progressif. Et du coup les musiciens ils ont mélangé baroque, classique, jazz, rock, ils t'ont fait un album de fou. Et puis je suis d'accord avec toi par rapport au fait que c'était aussi le métal avant l'heure, tu vois, c'était aussi l'époque d'Axelon avait à peine d'arriver et tout, mais eux, quand ils sont arrivés, surtout avec des albums qui sont venus après, en des années 70, les mecs, ils sortaient des riffs d'une lourdeur, c'était pas permis, en fait. T'avais pas le droit de faire des trucs comme ça, c'était interdit par les conventions de Genève.
Et pour le coup, depuis tout à l'heure, je dis considéré comme le premier album de rock progressif de l'histoire, parce que en vérité, c'est quelque chose qui n'est pas unanime. Peut-être qu'on en parlera un jour, mais quelque chose qui existe, qui s'appelle le proto-prog, qui est arrivé avant King Crimson, marque réellement entre guillemets officiellement la rupture et la création du rock progressif. Mais c'est pas forcément unanime pour tout le monde. Peut-être qu'on en parlera un jour. Je voulais juste te couper là-dessus.
Oui, non, mais voilà, le proto-prog, où t'avais des groupes comme les Moody Blues qui mélangeaient pop et classique. T'avais
les Beatles, Frank Zappa.
Ouais, les Beatles, c'est vrai. Quand ils étaient avec Sgt Pepper, ça peut être considéré comme du rock progressif. Enfin, comme du proto.
Sgt Pepper et Abbey Road aussi.
Ah, le medley de Abbey Road, c'est vrai. Mais après, tu vas avoir Soft Machine, t'as plein de groupes. Enfin bref, on en parlera sûrement un jour, mais c'est un sujet qui est hyper intéressant aussi.
C'est un sujet qui peut être intéressant, parce qu'au final, c'est encore plus remonté à la racine que remonté à la racine du rock progressif. J'extrapole un petit peu, peut-être. Donc avant de commencer à parler de cet album, je pense qu'on va passer le morceau maintenant.
Oui.
Qu'est-ce que t'en
oui.
penses? Ouais, avant de parler de l'album en détail, on va vous passer le morceau. Donc le morceau qu'on vous passe, c'est I Talked to the Wind. Set the straight man to the late man. Where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. Not here.
can't instruct me or conduct me, just use up my time. I talk to the
Et donc c'était I Talk to the Wind, donc qui est un morceau qui est peut-être l'un des morceaux les moins cultes de l'album, en tout cas les moins représentés, parce qu'il y a quand même deux mastodontes qui se battent en duel dans l'album, mais on a quand même un ventre mou, je trouve, au milieu de l'album, donc avec le morceau Moonchild, donc le morceau Moonchild qui est entre guillemets balade improvisation, c'est assez particulier. Donc juste pour quelques petits détails techniques avant de reparler de l'album en lui-même, donc la pochette a été réalisée par Gary Godbert, il me semble, c'est ça Léo ?
Gary ou Barry, ça on a toujours pas vérifié l'info.
Tiens d'ailleurs je vais te laisser raconter la fameuse histoire concernant la pochette de l'album.
Barry ou Gary Godbert, ça faudra vraiment que je vérifie l'info, mais en gros c'était pas un dessinateur, c'était un informaticien. Et en gros ce qui s'est passé avec ce mec, c'est qu'en gros Robert Fripp est tombé sur le dessin, Et du coup, ce qu'il a fait, c'est que il a voulu avoir les droits, et du coup, c'est devenu la pochette. Parce que aussi, quand il a montré aux membres du groupe, tous les membres du groupe disaient « Waouh, c'est trop bien, vas-y, on la met ». Et du coup, voilà. Et Gary Goldberg, il est mort à 23 ans, et il est mort l'année d'après la sortie de l'album. Et du coup, voilà, le mec est informaticien, mais il a quand même signé une des plus grandes pochettes de la musique, en fait.
Et surtout une des plus cultes.
Ça, mais une des plus cultes, même les gens qui écoutent pas de rock ou autre connaissent la pochette.
Et pour le coup, moi, avant de découvrir l'album il y a peut-être un an et demi, deux ans, moi je connaissais surtout l'album parce que la pochette me disait quelque chose. La pochette m'était familière.
Ah oui, mais c'est le genre de pochette comme Abbey Road ou Sgt Pepper. Tout le monde connaît la pochette en fait.
C'est comme Dark Side of the Moon, c'est des albums comme ça. Où en plus du statut culte de l'album, il y a aussi le statut culte de la pochette qui rentre en compte. Pour vous citer comment était qualifié en tout cas l'album à l'époque, Pete Townshend, donc le leader du groupe The Who, donc qui est un groupe aussi qui est très culte et qui d'ailleurs fait partie de la sphère considérée un peu comme le proto-prog, a considéré donc l'album dont on parle aujourd'hui, The Court of the Crimson King, comme un chef-d'œuvre de l'étrange. Est-ce que toi t'es d'accord avec ça, Léo?
En gros, Pete Townshend, moi je suis d'accord avec ce qu'il dit, que ce soit un chef-d'œuvre de l'étrange, surtout à l'époque, tu sors un ovni comme ça. Et puis Pete Townshend aussi, avec les Who, ils avaient fait des tentatives aussi, pareil, ils ont considéré, ils étaient un peu dans cette vibe proto-prog. Quand t'écoutes des albums comme Tommy, ou que après je sais plus s'il est sorti après The Crimson King ou avant, c'était Quadrophenia, si j'ai pas de conneries, ou voilà, c'était vraiment des opéras rock, et c'était vraiment limite du rock progressif, hein. Je sais pas si tu les as écoutés, mais...
Alors du tout, moi je sais que c'est dans ma liste d'écoute, je sais qu'il faut que je les écoute parce que c'est un peu considéré comme du proto-prog, mais pour le coup non, je connais que de réputation, je sais que c'est quelque chose qui a marqué entre guillemets la vague proto-prog et qui a influencé ce qui deviendra plus tard les musiciens de rock progressif.
C'est ça, voilà, et puis c'est un super album avec une super histoire, et ils en ont même fait un film que je n'ai pas vu, mais vraiment c'est un super album, je te le conseille. Et pour en revenir du coup à In the Court of Crimson King, comme je disais, c'est un de mes albums préférés. J'ai certes mis du temps à l'apprécier, mais maintenant, voilà, je l'écoute très souvent. Et puis, ça brasse des émotions. C'est vraiment le genre d'album, c'est ça brasse des émotions où tu te dis, mais je voulais pas. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? C'est y a des textes qui sont hyper touchants, genre I Talk to the Wind, qui a le même
mais
morceau.
Monsieur, on n'avait dit pas les fesses.
Et I Talk to the Wind, c'est vraiment un morceau incroyable. Parce que les paroles, elles sont... C'est des vraies poésies, en fait. C'est parce que Peter Sinfield, à la base, est poète.
Oui, parce que pour le coup, au départ, c'est pas un musicien, c'est un poète. Ouais.
C'est ça. Mais ouais, mais Peter Sinfield, après, quand il pense, il a fait pratiquement que les paroles. Hein.
Ah, mais il a écrit que les paroles pour le groupe.
C'est ça, oui. Et après, il aura fait un album de studio aussi qui était plutôt sympa. Mais voilà, les paroles, donc je parle de Act of the Wind et tous les textes de l'album. Même l'intro de Moonshine, de chanter, les paroles sont magnifiques. Mais après, même musicalement... T'as une variété sur cet album, tu passes de 21st Century Skinzoilmen, quelque chose de très rentre-dedans, très jazzy, beaucoup d'impro, I Talk to the Wind avec des petits fluctuos et tout, Epitaph avec l'arrivée du mélotron, un refrain, des paroles qui ont traversé des générations, Moonchild qui est certes étrange, mais que moi maintenant j'aime beaucoup, parce que ça rentre dans le cadre de l'album, et je m'y suis habitué, et j'adore ce morceau. Puis tu finis l'album par The Court of the Crimson King, qui est un monument, qui a été repris par je sais pas combien de groupes. C'est culte de A jusqu'à Z. Même Moonchild, pour moi, c'est hyper avant-gardiste, et c'est un morceau qui a beaucoup influencé aussi, hein, faut pas croire. Hein. Mais tout cet album-là, si cet album n'existait pas, la musique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui.
Et pour le coup, alors moi par contre, je trouve que l'album a limite un côté un peu bipolaire. Je trouve deux phases de Crimson King qu'on va pouvoir explorer dans cet album-là. C'est une première phase donc, qu'on va retrouver notamment avec 21st Century Schizoid Man. Le groupe va dégager une vraie fureur, une vraie colère. Donc là pour le coup, 21st Century Schizoid Man évoque la guerre du Vietnam et les séquelles qu'il y a de la guerre du Vietnam. Il me semble que le morceau se met du point de vue d'un ancien soldat, c'est ça ?
C'est ça, voilà, d'un soldat de la guerre du Vietnam qui était traumatisé par la guerre, voilà, c'est ça.
Et on va avoir d'un autre côté un King Crimson très, très mélancolique, très à la limite de la dépression. Hein. Quand on écoute les paroles du morceau Epitaph, même l'ambiance du morceau en général, c'est limite mortuaire en fait. Et c'est ça que je trouve très intéressant aussi dans cet album-là, c'est qu'on va avoir un album qui va, j'irai pas avoir le cul entre deux chaises, mais qui va savoir gérer ses ambiances et qui va savoir diversifier ses ambiances surtout. Et malgré le fait que c'est un album qui peut paraître très, très difficile d'acter, très foufu, j'ai utilisé le mot foufu en 2020, c'est assez incroyable. C'est un album qui va vous emmener très loin, certes pas facilement, certes ça va être un voyage qui peut être très compliqué, surtout si vous n'êtes pas habitué, si vous êtes un débutant, un néophyte, etc. Et que vous n'avez vraiment pas l'habitude de morceaux à rallonge comme ça, où ça part un peu dans tous les sens. Mais sinon, c'est vraiment un album, si vous l'avez pas déjà écouté, vraiment foncez, parce que pour le coup, encore plus, si vous vous intéressez au rock progressif, vraiment là c'est un must listen, mais absolu.
Ouais, mais même, pour moi, ça fait partie des albums écoutés au moins une fois dans sa vie, parce que c'est même la pochette est tellement... Rien que, même si t'écoutes pas du rock, rien que pour la pochette, tu dois d'écouter cet album, quoi. Et ça, pour moi, ça va être pareil sur les deux albums aussi dont on va parler après, c'est que... Tu vois, ces trois albums qu'on parle aujourd'hui, c'est vraiment trois albums qui ont marqué le rock progressif. Et voilà, si vous aimez le rock progressif, que voilà, si vous voulez vous y mettre ou que juste vous aimez le style, faut les écouter. C'est vraiment des albums essentiels.
Ah, pour le coup, c'est vraiment les bases du rock progressif. Alors, on a dû faire des choix parce que dans l'émission, on ne parle que de trois albums par épisode. Mais c'est pas impossible qu'un jour on fasse une deuxième partie de cet épisode où on parle d'autres groupes assez cultes des années 70, parce que pour le coup il y a vraiment une grosse vague de groupes qui est arrivée à l'époque qui a posé une patte. Donc là aujourd'hui on parle de King Crimson et de deux autres groupes, donc je vais pas vous spoiler, mais je peux aussi citer Emerson, Lake & Palmer. Bon, je sais que toi t'es pas forcément très fan.
Ouais, non, on va éviter de parler de ce groupe, sinon je vais être mal poli.
Mais on peut aussi parler d'un groupe qui est très 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 influent aussi, par exemple c'est Jethro Tull. Jethro Tull qui est un groupe qui a influencé même aujourd'hui un mec comme Steven Wilson, c'est un super fan de Jethro Tull, pareil pour Michael Akerfeld d'Opeth. Et j'en peux aussi parler d'une... Bref, il y a plein de groupes, donc peut-être qu'on fera une deuxième partie cet épisode-là un jour. Moi, je pense qu'on a assez dit sur cet album-là, je pense. Et bah, passons au deuxième album, parce que pour le coup, c'est l'album qui, sans absolument aucun doute, va être celui dont tout le monde veut dire « Ah bah oui, effectivement !» C'est parce que ça a été, à une période, l'album le plus vendu de l'histoire de l'industrie musicale. C'est aujourd'hui un album qui est absolument cultissime, que tout le monde connaît le groupe... Auteur de l'album, je vais parler de Dark Side of the Moon des Pink Floyd.
Et dis donc, et si on parlerait pas du meilleur album ?
Oh là 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 là, et vraiment, est-ce qu'on se mouillerait pas un peu en disant que c'est le meilleur album de l'histoire ?
Oui, alors moi je préviens tout de suite, petit disclaimer, encore un disclaimer de ma part, cet album-là, je ne peux pas être objectif. Les autres aussi, hein, mais celui-là encore plus, parce que c'est vraiment un album que j'écoute depuis très longtemps, que je devais avoir quoi, une dizaine d'années la première fois que je l'écoutais en entier. J'ai une attache particulière à cet album et ce groupe, parce que Pink Floyd, c'est vraiment, pour moi, le meilleur groupe de tous les temps. Et voilà, c'est cet album, j'ai pas de mots, juste c'est sublime, c'est magnifique. Et j'ai dû l'avoir écouté au moins une centaine de fois dans ma vie, mais à chaque fois que je l'écoute, j'ai beau connaître chaque note par cœur, ça me transporte, mais tellement loin, Cet album est incroyable.
Enregistré entre juin 72 et janvier 73 au mythique studio de Abbey Road à Londres et sorti le 1er mars 1973 sous le label Harvest, Dark Side of the Moon est donc, comme je l'ai dit, le plus gros succès commercial mais aussi le plus gros succès d'estime de l'histoire du rock progressif. Il fut donc aussi à une époque l'album le plus vendu de l'histoire de l'industrie musicale. Aujourd'hui, il me semble qu'il est dans ce classement à la 3ème position, ce qui, pour un album de rock progressif, et quand même tout de même une sacrée performance. En termes de succès commercial, il a eu évidemment, comme je l'ai dit, un énorme succès commercial, parce qu'il a atteint déjà la première place des charts dans de nombreux pays, donc à savoir l'Autriche, le Canada, les États-Unis, mais aussi notre bonne vieille France, et tout ça seulement dans l'année 1973. Donc je sais pas si on se rend compte un petit peu de l'impact qu'a eu l'album dès sa sortie. Et la même année aussi, il a atteint la deuxième place des charts australiens, norvégiens, néerlandais, et du pays d'origine du groupe, à savoir la Grande-Bretagne. Au niveau du line-up, donc, on est sur moins de monde que sur l'album de King Crimson, et pour le coup, là, on est sur un line-up stable parce qu'il ne bougera pas tout du long de la carrière du groupe.
Ouais, non, voilà. En fait, pour t'expliquer, pour faire un peu de l'histoire de Pink Floyd, en gros, au premier album, qui s'appelle The Piper at the Gates of Dawn, en gros, sur cet album-là, t'avais pas le même line-up que là, en fait. T'as oublié Syd Barrett. Et il n'y avait pas Gilmour.
Non, Gilmour est arrivé un peu après pour tout justement supplier Barrett. Ouais.
C'est ça, parce que Syd Barrett, en fait, c'était quelqu'un qui était certes un génie musical, mais qui tombait dans la drogue, la dépression, et du coup, il devenait agressif, intenable, et du coup, ils ont dû le virer du groupe. Alors que, tu vois, sur le premier album, tu sens vraiment que c'est un ovni dans la carrière de Pink Floyd, parce que tu sens vraiment Syd Barrett qui est aux commandes. Et après, t'auras David Gilmour et Roger Waters qui auront la mainmise dessus. Et voilà, mais c'est vrai que t'as eu ça, puis après, à partir de The Wall, t'as Roger Waters qui a commencé à être
Roger.
Un peu tyrannique. Bon, après, Roger... Oui, je dis toujours Roger Waters. Et alors ? Je veux dire Roger Waters, mais certes tyrannique, mais moi, je suis team Roger Waters. Je préfère Roger Waters à David Gilmour. Attention, j'adore David Gilmour. Mais Roger Waters, moi j'adore sa carrière solo, sur ce qu'il a fait ensuite, et en live. J'ai eu la chance de le voir en live il y a 2 ans. Et c'était... Je crois que ça restera le plus beau concert de ma vie, en fait. C'était juste génial. J'adore ce mec. Mais voilà.
Et donc comme on l'a dit, alors, du coup, sur cet album-là, il n'y a pas Syd Barrett. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je divague encore un petit peu. Mais si ça vous intéresse un peu l'histoire avec Syd Barrett, etc., je ne saurais plus vous retrouver le nom du vidéaste. Mais il y a un vidéaste qui a fait une super vidéo sur l'album Wish You Were Here, qui, au passage, Unpopular Opinion, est pour moi le meilleur album des Floyd. C'est calé. Pour moi, c'est vraiment au niveau de la production, etc., c'est un chef-d'œuvre. Donc qui retrace un peu l'histoire de l'album Wish You Were Here et qui parle beaucoup de Syd Barrett, etc. Donc si ça vous intéresse, allez fouiller. Et donc sur cet album, on se retrouve avec un line-up avec 4 musiciens. Donc on se retrouve avec David Gilmour qui est à la guitare, au chant et au synthétiseur. Donc en fait, je pense qu'il y avait tellement d'effets de synthétiseur qu'il s'est obligé d'être 3 dessus. Parce que Roger Waters donc, est à la basse aussi au chant et au synthétiseur. Nous retrouvons aussi à leur côté Richard Wright, donc, qui est claviériste et qui participe au chœur et qui fait du chant aussi. À leur côté, on retrouve Nick Mason, le batteur du groupe, et le regretté Richard Wright, le claviériste et aussi qui occupait les parties de chant du groupe, qui est malheureusement décédé il y a quelques mois. Et pour ce qui est de la pochette, donc, qui est elle aussi mythique pour le coup, c'est, je pense pouvoir dire, l'une des peut-être des pochettes les plus mythiques de l'histoire de l'industrie musicale.
Non, c'est la pochette la plus mythique.
Ok, il y a zéro débat, c'est la pochette la plus mythique. Du groupe et de l'histoire de l'industrie musicale, qui a été réalisé par le collectif Hypnosis, pardon, c'est assez compliqué à prononcer, et l'ancien tennisman George Hardy. Donc voilà, petit point anecdote impromptue, un ancien tennisman en tout cas, est responsable de la plus grande pochette de l'histoire de la musique progressive. Alors, je vais te laisser en parler, parce que je sais que c'est un album qui est très important pour toi. Du coup, Léo, je te laisse la parole.
Ben, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un peu mon album, et ça changera jamais. C'est mon album de cœur. L'album que s'il devait en rester un sur Terre, ça serait celui-là. Et puis voilà, tu veux que je dise quoi, à part que cet album, c'est génial. C'est du tout début, à l'intro, de Speak to Me, Brief in the Air. Cet enchaînement de morceaux, au début, tu retrouves les sons de l'horloge que tu retrouveras dans Time. Les bouts de tiroir caisse, tu retrouves toute une synthèse de l'album, tu sais que tu vas rentrer dans un monde limite parallèle. Pour moi, quand j'écoute cet album, je rentre dans un monde parallèle. Puis après, t'as une variété, tu t'ennuies jamais sur cet album. T'as même On The Run, qui est peut-être le morceau le plus faible, entre guillemets, de l'album. C'est vrai, c'est le plus avant-gardiste. Et voilà, mais l'album va super loin, genre. Pareil, dans Time, les sons, t'entends toum, 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 toum. Genre, les sons du temps qui passe. En fait, j'ai vu ça en live.
C'est Waters.
J'étais pas au courant. Roger Waters bloquait ses cordes. Il faisait, et avec son médiator, sur sa basse, il faisait toum, toum, toum.
Ah oui.
J'étais pas au courant. Je trouvais ça génial. Il y a plein d'expérimentations comme ça. Les bruits de tiroir caisse dans Money, c'est monstrueux. The Great Gig in the Sky, qui est un morceau qui parle de la mort, qui est pour moi le plus beau morceau qui parle de la mort, avec. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette chanteuse. Mais
sais plus comment elle s'appelle, mais d'ailleurs, au passage, quand elle est arrivée en studio et qu'elle a chanté ça, elle a trouvé la performance absolument horrible. Et encore aujourd'hui, on loue la performance comme l'une peut-être des plus grandes performances vocales de l'histoire de la musique progressive, d'ailleurs.
Ça va, t'as volé mon anecdote, mais voilà, c'est Clartory. j'ai trouvé. Claire Tory, qui est passée dans les studios, ils ont fait « Hey, vous allez chanter ?» Tu me dis « Tu nous pousses un cri ou un chant, ce que tu veux, ce qui te fait penser à la mort. » Et t'as balancé ce cri que tu retrouves dans The Great Gig in the Sky, tu te dis « Mais c'est incroyable !» Et comme tu disais, quand t'es sorti de ça, elle a fait « Bah non, j'étais nul en fait, je veux pas, vous mettez pas ça, hein. Non, 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 t'inquiète. » Et c'est devenu un truc de fou. Et voilà, après, qu'est-ce que je fais de plus, à part que cet album, de A à Z, c'est excellent. T'as Us and Them, qui a un texte qui est juste sublime.
Et pour le coup, cette fois-ci, les textes sont écrits par les membres du groupe, hein, pour le coup.
Et puis même, aussi, le refrain de Brain Damage, ça, c'est des morceaux genre Brain Damage, Any Color You Like, Eclipse, pas dans cet ordre-là, mais voilà, tu m'as compris, la fin de l'album est incroyable, tout est incroyable. Et dans Brain Damage, quand il chante See You on the Dark Side of the Moon, moi ça me... Je te jure, à chaque fois, ça me prend aux tripes, cet album est incroyable.
Et pour le coup, c'est un album qui se suit, hein, certes, il y a beaucoup de morceaux, mais c'est les morceaux qui sont en continu. C'est un album qui suit un ordre chronologique, qui suit un concept, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, l'album part avec au début, donc Breathe in the Air, donc ça part de la naissance pour arriver jusqu'à Eclipse, jusqu'à la mort en fait.
C'est ça, voilà. Mais même dans l'album, tu as parlé de folie, juste de l'être humain en fait. Et genre un morceau comme Brain Damage qui parle de folie. Moi, Brain Damage, c'est un morceau que beaucoup de gens oublient.
D'ailleurs, Brain Damage qui fait un petit peu écho à Syd Barrett d'ailleurs.
C'est vrai, j'ai pas trop vu ça comme ça, mais c'est vrai. Mais après, bon, le fantôme de Syd Barrett.
Toute la carrière, le fantôme de Barrett va planer sur le groupe, et surtout dans les pensées du groupe.
Et puis surtout, c'est que quand tu le vois à partir du deuxième album, quand tu fais Syd Barrett, enfin dans le deuxième album, il y a juste un morceau, mais tu vois que jusqu'à Middle, même Obscured by Clouds, le groupe, ils n'arrivent pas à se détacher de Syd Barrett. Ils ont fait des albums certes excellents comme Atom Atmosphere ou Middle, mais ils arrivent pas à se détacher. À cette époque-là, genre, quand Dark Side est sorti, les mecs avaient trouvé leur son, ils s'étaient détachés de Syd Barrett, et voilà, ça donnait le plus grand album de tous les temps. Voilà, il n'y a pas de négociation.
C'est un album qui reste, comme à l'accoutumée chez Pink Floyd, très planant, c'est imprimé du psychédélisme, parce qu'au départ, bah, Pink Floyd c'est du rock psyché, hein, ça suit la mouvance des années 60, mais c'est un album qui reste à la fois aussi extrêmement instrumental quand on y réfléchit. Il n'y a pas tant que chant de ça sur l'album.
Ah,
tout dépend des morceaux, mais t'as beaucoup de morceaux qui sont très, très ambiants, très atmosphériques, où le but, ça va pas être de raconter une histoire, là, pour le coup, sur certains morceaux, ça va être surtout te plonger dans une ambiance, et c'est aussi ça qui caractérise, entre guillemets, le détachement de l'influence de Syd Barrett de la part de Pink Floyd. C'est que Pink Floyd va s'aventurer plus dans les terrains donc progressifs, comme on l'a dit au début, c'est-à-dire que le groupe va s'autoriser plus d'aventures dans sa musique, va plus expérimenter, va repousser encore et encore plus loin les limites de sa musique. Et comme on voit par exemple un morceau comme Icos, aussi de Barrett, c'est pas possible. Là pour le coup, quand on a Gilmour et Waters.
Ouais, c'est vrai, mais ça sent que tu connais pas les trois premiers albums. Ça sent que t'as jamais écouté Uma Guma. Uma Guma qui est pour moi le moins bon album de Pink Floyd, et que je trouve très peu de choses qui me plaisent parce que c'est l'album le plus expérimental de Pink Floyd. Genre, t'as des bruits d'animaux, Roger qui fait des bruits d'animaux à la bouche, t'as Nick Mason qui te sort un morceau de 10-15 minutes en plusieurs parties, avec des trucs arabisants, non, des expérimentations. Dark Side of the Moon, moi c'est mon album préféré tous les temps, et c'est vraiment pour moi l'album, le plus grand album de tous les temps. Mais je ne peux pas dire
que c'est plus expérimental. Ah non, j'ai pas dit que c'est plus expérimental, j'ai juste dit que plus le groupe avançait, plus le groupe se détachait de l'influence de Syd Barrett, plus ça expérimentait, plus ça faisait évoluer la musique.
C'est vrai, mais vraiment, quand t'écoutes les trois premiers albums de Pink Floyd, les mecs sont vraiment sous acide. Quand t'écoutes Interstellar Overdrive ou Astronomy Domain, les mecs, ils avaient pris beaucoup de drogue. Et même des lives de cette époque-là, les mecs, ils étaient possédés. Ça, je reprends
la
petite
qui a inventé le light show.
Mais... Ah oui, mais allez voir des images de Pink Floyd en concert entre 67 et 70, je dirais. Mais vraiment, avec les light shows, tout ce qu'il y avait, les mecs étaient possédés. C'était n'importe quoi et allez jeter un coup d'œil, c'est drôle.
Quand on compare cette époque-là et l'époque où Roger Waters veut construire un mur entre lui et le public parce qu'il peut plus supporter son public, c'est vrai qu'il y a un sacré contraste.
Ah, mais l'histoire de The Wall.
Oui, Donc pour pas trop s'aventurer et diverger, parce qu'il ne faudrait pas non plus se perdre dans nos propos, je te propose qu'on écoute le morceau qu'on va leur passer.
Oh oui.
Alors donc le morceau de Sabo, alors le choix a été cornélien, le choix a été très dur parce que pour le coup il y a vraiment beaucoup de morceaux qui valent la peine. Il y a beaucoup de morceaux qui sont assez magnifiques, assez cultes, mais on a choisi le morceau Any Color You Like, qui je trouve en tout cas personnellement est l'un des morceaux qui est pour moi l'un des meilleurs, mais qui est l'un des moins représentés.
Ouais, mais Any Color You Like, c'est un peu le morceau pareil, même moi je le mettais de côté un moment, et grâce à une vidéo de je sais pas si tu connais Breakfast and Backstage.
Oui, je connais.
J'ai connu ça, bon, c'était fini, tu vois, mais quand ils ont parlé de leur amour pour Pink Floyd et tout, et que ils ont parlé de Any Color You Like, ils ont dit redonner une justice à Any Color You Like. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'on l'oublie trop souvent. C'est juste un instrumental de quelques minutes, mais c'est juste génial. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit, vas-y, on passe celui-là pour au moins rendre justice à Any Color You Like.
Et bien sur ces belles paroles, je vous propose de vous passer le morceau et on se retrouve tout de suite.
Et du coup, toi Manu, moi j'ai beaucoup donné mon avis. Qu'est-ce que tu en penses de cet album ?
Eh bah, sur beaucoup de points, je suis d'accord avec toi. Sur le fait que c'est l'un des plus grands albums, enfin toi tu dis que c'est le plus grand album de l'histoire de l'industrie musicale. Moi je dirais l'un des plus grands albums, parce que pour moi c'est toujours très compliqué de qualifier tel ou tel album de meilleur album de l'histoire ou je sais pas quoi. Pour te dire, j'ai beaucoup de mal à qualifier mon album préféré à moi. C'est pour te dire. Mais effectivement, c'est un classique, un album qui est absolument magnifique, qui te prend au trip. Et pour le coup, c'est un album, quand on est sur un grand album, un excellent album, il y a une qualité qu'on va souvent retrouver, c'est que c'est un album qui va passer très vite, et c'est le cas de Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon dure 3 quarts d'heure, il me semble, quelque chose comme ça. Et c'est 3 quarts d'heure qui passent vraiment très très vite. Et pour le coup, c'est pour moi... Alors, moi je suis plus dans un côté où je vais essayer de théoriser l'impact qu'il a eu, etc. Malgré le fait que ce soit un album culte, que ce soit le plus grand album de l'histoire de la musique progressive en termes de succès d'estime commerciale, etc. Je pense que c'est un album qui n'a peut-être pas eu un effet extrêmement positif sur l'avancée après du rock progressif.
Pourquoi ça ?
Parce que Dark Side of the Moon, c'est un album qui a tendance même à simplifier son propos, à beaucoup simplifier la musique, à une époque où les autres albums de rock progressif et les autres groupes de rock progressif se démarquent de l'autre phase de l'industrie musicale, donc pop, rock, etc. Ils se démarquent par une extrême technicité et surtout une très très grande maîtrise de l'instrument. Et là, pour le coup, pour un débutant, jouer du Pink Floyd, c'est un très bon début.
Ah oui.
Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un album qui a peut-être pas forcément servi quand bien le rock progressif, parce qu'il a apporté encore un peu plus de regard, de visibilité, voilà, j'ai trouvé pas un mot, à l'époque, même s'il en avait déjà beaucoup avant que l'album sorte. Mais c'est un album qui a aussi poussé le changement du format radiophonique, qui, on le sait, à la fin des années 70, a fait énormément de mal à la musique progressive. Rien qu'à voir dans les années 80 un petit peu les purges qu'on a eues, Kouyes et Genesis.
T'as un problème avec Genesis, toi ?
Mais non, mais enfin, à partir du moment où Peter Gabriel est parti, c'est moins bon. Voilà.
Je suis pas d'accord, on en reparlera plus tard. Mais moi, je suis pas d'accord. Ça dépend des albums.
Pour le coup, je reconnais un grand, grand, grand nombre de qualités à Dark Side of the Moon. Évidemment que c'est un album qui est monumental, évidemment que c'est un succès qui est monstrueux, que c'est quelque chose qui est culte, qui le sera toujours et qui a influencé énormément de personnes. Mais je pense qu'au-delà de ça, il a peut-être eu un effet néfaste sur l'avancée du rock progressif, parce que mine de rien, on se retrouve avec des morceaux qui sont majoritairement courts sur cet album-là, à la différence des albums de rock progressif qui étaient dans les canons, en tout cas, du rock progressif de l'époque. Donc l'album dont on va parler après est l'exemple parfait. Et pour le coup, je pense que c'est un album qui a poussé un peu les groupes de rock progressif de l'époque à simplifier leurs propos. C'est par exemple ce qui a mené un groupe comme Yes un peu à s'effondrer dans les années 80. Et c'est un album qui, parallèlement, a fait beaucoup de bien au rock progressif, mais je pense que ça lui a fait beaucoup de mal.
Bah oui, parce que... En fait, ça dépend. Ça dépend comment tu vois, parce que ce qui a vraiment amener les groupes comme Yes ou Genesis à se popiser, c'est aussi avec l'arrivée du punk et tout, parce que quand t'as eu en 77, hein, les punks ils se sont dit ouais, on en a marre de la musique pompeuse avec des morceaux qui durent 15-20 minutes, tout ça, on va faire des trucs efficaces de 2 minutes, tout ça. Ben, c'est ça qui leur a surtout coûté. Mais après, c'est vrai que Dark Side of the Moon c'est tellement immense ou autre que voilà, les mauvaises foi diront que c'est même un album de pop et même pas un album de prog, mais bon. Vous, j'ai même pas envie de vous parler, les gens qui disent ça.
Parce que pour le coup, ce dont je parlais, c'est-à-dire la simplification et la compression des thèmes abordés, etc., de l'expression du groupe, ça a amené les différents labels qui, à l'époque, la technologie n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui, et autoproduire un album, c'était vraiment quelque chose de limite inaccessible, et donc tout le groupe qui se respectait passait par des labels, et les labels on commençait tout justement à ce moment-là à exiger autre chose, à exiger un autre format, un autre style qui va plus être calibré pour la radio. Et pour le coup, on le voit, hein, quand on regarde un petit peu le succès qu'a Pink Floyd, c'est un succès qui est aussi beaucoup passé par des passages radio, avec des singles qui sont certes des morceaux cultissimes du rock progressif. Donc là j'entends, je parle de Time, je parle de Money, mais c'est des morceaux aussi qui ont entre guillemets amené le rock progressif dans sa chute. Parce que à simplifier le propos d'une telle manière, parce que mine de rien, le rock progressif aujourd'hui, on parle le morceau de prog quand ça dépasse les 10 minutes, etc. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une ADN dans ce morceau, enfin dans ce genre, pardon, plutôt. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une fusion de jazz, de rock et de musique classique. Et on sait que le jazz et la musique classique, enfin, en tout cas, ce qu'on dénomine comme la musique classique, c'est qu'au sein de la musique classique, il y a la musique baroque, la musique romantique, etc. Bref, c'est des genres musicaux qui vont avoir tendance à étendre leurs propos sur le long terme. C'est pas pour, pour rien qu'on a certaines suites de Mozart, etc., qui durent des plombes. Et pour le coup, je peux comprendre que ça puisse saouler les gens. Mais c'était vraiment dans l'ADN du rock progressif, et je trouve que Dark Side of the Moon est arrivé comme le succès monstrueux, le mastodonte de l'industrie de l'époque, mais qui a changé pour le coup pendant plusieurs années et qui a fait beaucoup de mal à l'industrie progressive.
C'est vrai, je te rejoins là-dessus en vrai, je pense que t'as raison, mais ça n'empêchera pas de dire que cet album est le meilleur album de tous les temps, point final.
Ah, ça m'empêche pas de dire que l'album est excellent, hein. Il est même exceptionnel, hein. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose que n'importe qui, c'est pas tout le monde qui peut dire « j'ai fait un album à la Dark Side of the Moon ». J'ai fait un album aussi marquant, aussi influent, mais mine de rien, quand on voit la vision qu'on peut avoir aujourd'hui à travers tous les bouquins, etc., qui nous théorisent tout ça, on comprend que l'album a eu certes un énorme effet positif parce qu'il a fait connaître le rock progressif, mais c'est pas pour rien que à la fin des années 70 et pendant les années 80, le rock progressif était quasiment inexistant, que plus aucun label ne signe de rock progressif, que tous les grands groupes de rock progressif, donc tout à l'heure j'ai cité Yes et Genesis, se cassaient la gueule, c'est pas pour rien. Et je pense que le point de rupture, le point de départ de tout ça, je pense que ça a été Dark Side of the Moon.
C'est vrai. Bon, du coup, je te propose de passer au troisième album.
Et bah avec plaisir. Et donc pour le troisième album, là aussi c'est une recommandation fortuite et extrêmement forcive, je sais pas si ça se dit, mais extrêmement poussive en tout cas de Léo. Et après écoute, je le comprends totalement, j'aurais fait pareil, parce qu'on va parler de l'album Close to the Edge de Yes. Alors c'est un album qui est enregistré entre avril, et juin 1972, et sorti le 13 septembre 1972, c'est-à-dire la date de mon anniversaire, le 13 septembre. Bonjour, pensez à noter ça pour me le fêter sur Twitter.
Je n'étais pas au courant, tiens. Le 13 septembre, sortait l'album Close to the Edge, et des années après, il y a eu toi. Quelle déception.
Eh oui, bon, là pour le coup, quand l'épisode sera sorti, mon anniversaire sera déjà passé depuis presque une semaine. Mais c'était juste pour le petit fait rigolo, quand j'ai pris mes notes là-dessus, j'ai fait « Ah tiens !» L'album est sorti sous le label Atlantic, c'est le cinquième album du groupe, et pour le coup, c'est le successeur de, en tout cas pour ce que j'ai écouté de Yes, de mon album préféré de Yes, qui est celui qui, je trouve, est absolument supérieur, mais partout, l'album Fragile, qui est sorti l'année précédente. Et c'est là, alors je voulais juste caler quelque chose par rapport à cette première vague de rock progressif. Il y a des groupes qui ont vraiment une carrière très imposante parce que ça fait très longtemps qu'ils sont en activité, mais il y a aussi une caractéristique de rock progressif qu'on retrouve peut-être pas forcément aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les groupes prennent vraiment leur temps pour produire des albums, mais il y avait une très 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 grosse productivité, c'est-à-dire qu'un groupe qui sort deux classiques absolus de la musique progressive comme Yes, qu'ils l'ont fait donc avec Fragile en 71 et Close to the Edge en 72, c'est quelque chose qui aujourd'hui, et c'est pas possible.
Même comme moi je connais un peu mieux Yes que toi, mais si j'ai pas tout écouté, je connais très bien la période 70 de Yes, et je peux dire que même avant Fragile, t'avais The Yes Album, qui est certes pas mon préféré, mais qui pareil, c'est un album qui est en forme de morceaux comme Starship Trooper, ou Yours Is No Disgrace, The Clap...
Wolverhoven d'ailleurs.
Voilà, c'est vraiment, pareil, encore un album culte, et quand tu regardes les mecs, ils ont sorti d'affilée The Yes Album, Fragile, Close to the Edge, Tales from Topographic Ocean, les mecs... Dans les années 70, ils ont sorti que des super albums, à part Tormato. Mais voilà. C'est vraiment... Yes, c'est un groupe qui est incontournable. Et puis voilà, j'avais envie d'en parler. Et vraiment de cet album-là. Parce que tout le monde dit Fragile, c'est génial. Alors certes, Fragile, c'est aussi un de mes préférés de Yes. Mais Close to the Edge, c'est supérieur pour moi.
Ouais, mais dans Fragile, il y a Roundabout. Et Roundabout, bah voilà quoi, c'est culte.
Ouais, mais dans Close to the Edge, t'as Siberian 4 roues.
C'est pas faux. Donc avant de parler de l'album plus en profondeur, donc je vais vous présenter déjà le line-up. Parce que ça y est, on retourne au line-up à 5 membres. Avec le mythique et aujourd'hui, un peu comme tous les membres du groupe, légende John Anderson, qui est donc au chant, à la guitare acoustique et aux percussions. Donc a été très influent, par exemple pour des groupes comme Opeth, par l'utilisation tout justement de la guitare acoustique très 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 présente. Tout à l'heure je parlais de Roundabout. Roundabout est un morceau qui est parsemé durant tout son long de guitare acoustique. On a le guitariste attitré du groupe Steve Howe, le bassiste Chris Squire, Rick Wakeman qui est au clavier, qui partira, qui reviendra après, qui arrivera au moment où Yes commencera à se casser la gueule, mais ça c'est une autre paire de manches. Et enfin pour finir sur le batteur, donc Bill Bruford. Alors comme j'en ai parlé tout à l'heure, donc pour le coup vraiment cet album là est caractéristique, c'est l'exemple même de l'essence, à mon avis en tout cas, du rock progressif. C'est-à-dire que c'est un album qui est très particulier parce qu'il ne contient que 3 morceaux. Mais ça va être 3 morceaux qui vont être vraiment longs. On s'éloigne vraiment pour le coup du canon standard de la radiophonie. Avec donc le morceau d'ouverture Close to the Edge qui dure 18 minutes, qui est certes divisé en plusieurs parties, mais qui pour le coup dure quand même 18 minutes, c'est quand même un sacré pavé. Ensuite on a le morceau And You and I qui dure une dizaine de minutes, et lui qui n'est pas, pour le coup, n'est pas divisé en plusieurs parties, c'est vraiment un pavé de 10 minutes qu'il faut se manger et qui est absolument magnifique. Et pour finir sur le dernier morceau de l'album, donc, ça fait bizarre de dire ça quand on parle du troisième morceau de l'album pour le coup, donc le troisième morceau et dernier morceau de l'album, Siberian Cthulhu, qu'on a déjà évoqué juste avant. Donc pour le coup c'est un album qui est très particulier parce qu'il n'a que 3 morceaux, il dure 3 quarts d'heure à peu près il me semble, sans compter les éditions de luxe, avec les morceaux bonus, etc. En termes de succès commercial, il a eu un succès commercial assez honorable pour le coup. Il a atteint la 4ème place des charts au Royaume-Uni et la 3ème place sur le territoire américain, ce qui est une tendance qui va se dégager au fil des années. C'est-à-dire que aux États-Unis, on est très féroce de rock progressif, mais on sait pas en faire. Le tacle est lancé. Je parlerai pas de Camel parce que pour le coup, Camel c'est un peu une exception qui confirme la règle, je trouve. Mais avant de parler de la musique de l'album, tout simplement, juste la pochette a été réalisée par un artiste qui aujourd'hui est affilié automatiquement à Yes, qui aujourd'hui est presque limite aussi connu que le groupe en fait, Roger Dean. Donc Roger Dean qui d'ailleurs a signé la pochette du prochain album de The Flower Kings, qui est aussi très très yesien dans l'âme. Et donc Roger Dean qui est l'acteur principal de l'univers visuel de Yes, qui a fait rêver et a fait encore rêver des personnes, des jeunes enfants qui découvrent le rock progressif grâce à leur père ou leur grand-père, mais aussi les pères et les grands-pères qui ont découvert ça à l'époque.
Et puis même, tu dis affilié quoi à Yes, c'est même au-delà, même dans le rock progressif, quand t'as une pochette par Roger Dean, tu sais que c'est du rock progressif. Parce qu'il y a eu Yes, mais après il y a eu quoi? Il y a eu Gentle Giant, il a fait la pochette de Octopus. Il a fait les pochettes de Asia.
Il a bossé pour Emerson, Lake & Palmer aussi, il me semble, non?
Je
peux dire une bêtise, mais ça me dit quelque chose.
Ça, je ne sais pas, tu vois. Mais voilà, il a fait plein d'albums. Il faudra que... Je vous invite à aller voir sa page Wikipédia. Parce que vraiment, il a fait les 3/4 des pochettes de rock progressif. Je crois qu'il a fait aussi Yes Union. Il avait fait plein de trucs comme ça. Vraiment, je vous invite à aller voir, mais les 3/4 des projets de rock progressif connus, c'est lui qui les a faites, en fait. Il a une patte vraiment reconnaissable et incroyable. Puis après ça, tu partes de la pochette de celle-là. Alors, donc le sujet, la pochette, certes, c'est un dégradé vert foncé, mais en fait, c'est surtout le travail qui a été fait au niveau de l'artwork. C'est pour l'avoir en vinyle. C'est qu'on a certes la pochette qui est verte, mais en fait, à l'intérieur, il y a vraiment un paysage très onirique, très ésotérique. C'est super beau et j'adore le travail de Roger Dean.
Pour le coup, moi je sais que je suis plutôt un aficionado de ce qu'il a pu faire, donc par exemple avec Yes, surtout sur l'album Fragile, je trouve qu'il y a une pochette qui est absolument dantesque, et aussi oui sur l'album de Jet and Giant Octopus, qui c'est un mec qui signe des pochettes qui à chaque coup c'est une pochette qui est magnifique tout le temps. Assez parlé d'univers visuel, maintenant parlons de musique. Alors, vu que c'est un album qui m'a été proposé par Léo, Léo voulait en parler, et je, après écoute, comme j'ai dit tout à l'heure, je le comprends, je vais laisser Léo commencer.
Comment dire, Close to the Edge, quand je l'ai écouté, en fait, j'ai découvert, c'est parce que, je me rappelle, j'allais à la Fnac et j'avais sympathisé avec un vendeur, et il me disait, ouais, du coup, t'écoutes pas Yes? Et même pareil, à la Fnac ou même au disquaire, à mon disquaire où je vais, et tout le monde me disait, mais il faut que t'écoutes Yes, c'est incroyable, Close to the Edge, tout ça. Et moi, je disais, ben, je connais Fragile. Je connais Fragile et je connais 90-125. Parce que oui, j'ai dit 90-125. On fait, non, mais tu loupes tout, faut que t'écoutes Close to the Edge. Et on m'a tellement bassiné, quand je l'écoutais la première fois, j'ai fait, ouais, c'est bien, mais sans plus. Et qu'est-ce que j'ai envie de me tarter. Cet album, plus... en fait, première fois qu'on écoute, pareil, on se dit, c'est, je sais pas, c'est assez spécial. Parce que même les deux premières minutes de l'album, avec le morceau Close to the Edge, voilà, c'est un peu bruitiste.
C'est très ça peut paraître très brouillon, effectivement. On est à la limite du drone avant l'heure.
C'est ça, voilà, et c'est très avant-gardiste, très bruitiste, mais il y a beaucoup de gens qui ont abandonné au bout de ces deux minutes, mais cet album-là, c'est vraiment, plus on écoute, plus il s'ouvre à nous, et surtout, il a une construction un peu bizarre, je trouve, parce que, donc ça, trois morceaux, mais tu commences par le premier morceau, Close to the Edge, le morceau éponyme, qui est le morceau le moins accessible de l'album, et tu finis par Siberian Café, qui est le plus accessible de l'album. Ça, c'est un truc, voilà, mais, voilà, qu'est-ce que je dis, à part que Close to the Edge, les... Alors après, j'ai dit les paroles. Les paroles écrites par John Anderson, c'est jamais très construit. C'est toujours très brouillon, on sait pas vraiment le sens. Mais c'est très joliment écrit. Mais après, pour trouver le sens, bonjour. Puis même, musicalement, on a des tueurs. Steve Howie...
Steve Howe, c'est... Les parties de guitare, je trouve, sont absolument hallucinantes. Et surtout, surtout, moi, le truc qui m'a marqué, c'est les parties de clavier de Rick Wakeman qui... Certes, c'est... Alors, désolé de dire ça pour tous les fans de Yes, mais je trouve que ce mec-là, c'est un connard.
Alors, je vais venir chez toi, tu vas te prendre 3 points dans la gueule.
Mais je peux que reconnaître qu'il est sur... Après, sur l'autre, sa deuxième partie de carrière, c'est chez Yes, j'en parlerai pas parce que je vais être vulgaire. Mais sur cette première partie de carrière qu'il fait avec Yes, je trouve que Rick Wakeman, c'est exceptionnel, quoi. Enfin... Il participe tellement à l'atmosphère, à l'ambiance des morceaux, des albums du groupe, que c'est juste...
C'est dantesque. Et puis, mais quand tu regardes le line-up, t'as John Anderson qui, pour moi, alors, je suis pas objectif parce que on aime, on aime pas, moi, c'est un de mes chanteurs préférés. C'est même mon chanteur préféré, peut-être. Je sais pas, c'est...
Ah, pour le coup, il a une voix très particulière, mais qui, une fois que tu t'y es fait, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. C'est
vraiment au mysticisme qui est autour de Yes, le côté un peu ésotérique. Steve Howe, qui est un guitariste de fou... Rick Wakeman, comme tu dis, au clavier. Bill Bruford, qui ensuite est allé dans Asia, dans King Crimson, qui c'est un tueur. Et puis surtout, moi, vraiment, Chris Squire. Est-ce qu'on en parle dans tous les albums de Yes, la basse de Chris Squire?
Il y a une basse qui est absolument magnifique.
Même, regarde, comme tu dis dans Fragile, t'as Roundabout, et puis même, là, dans Siberian 4 roues, l'intro à la guitare, cet album est... Voilà, on se répète beaucoup depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous voulez, j'adore ces trois albums.
Ah, pour le coup, c'est un peu le thème qui veut ça, parce que pour le coup, les trois albums qu'on a sélectionnés pour ce premier épisode, c'est quand même trois chefs-d'œuvre, trois albums cultes, trois albums marquants de l'histoire du rock
progressif. C'est génial.
Ah, c'est des mastodontes.
Puis voilà, mais après, voilà, t'as le morceau And You and I qui commence, il y a des je crois que c'est des petits sons de studio qui ont eu de And You and I.
Oui, avec et puis ça joue aussi beaucoup. Alors Yes, ça, donc comme je l'ai dit, ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la guitare acoustique. Pour le coup, John Anderson est attitré sur l'album à la guitare acoustique. Et quelque chose qu'aime beaucoup Yes, outre jouer à la guitare acoustique, c'est s'amuser avec les harmonies. Les harmoniques à la guitare, donc à la case 5-7, 12 et 17.
Ouais.
Donc pour les guitaristes, vous allez pas comprendre, mais tous les musiciens à côté me comprendront. Quand on écoute du coup And You and I, et même quand on écoute l'album le morceau culte pour moi de Yes, Roundabout, on remarque très vite qu'il y a vraiment une patte qui est là et qui va rester et qui va influencer beaucoup 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 de groupes. Je suis persuadé que tu demandes à Michael Lagerfeld, c'est sûr, c'est quand tu écoutes sa musique, c'est obligé, Mais quand tu parles avec un mec comme Wilson, je suis persuadé qu'il va te citer dans une de ses grosses influences musicales. C'est ça, Yes, c'est obligé.
Yes, c'est ce que j'allais dire, c'est que t'as un son de guitare, un son... Tout dans Yes, ça fait de eux un groupe unique. Je te jure, mais moi, je suis guitariste débutant, voilà, donc je connais pas trop, mais je sais pas ce qu'ils foutent comme effet sur leur guitare, ou sur la basse, ou sur n'importe quoi, mais c'est incroyable. Quand tu vois au début de Andrew and I, donc cette petite partie studio, et après juste il gratte sa guitare, t'as aucune guitare qui sonne comme celle-là. C'est fou. Ils ont un son, une technicité de fou. Tout est génial dans ce groupe. Après, il n'y a pas tous les albums qui sont bons.
Mais parce que pour le coup, l'explosion, l'apogée pour moi du début de l'album, donc sur Close to the Edge, quand vraiment le morceau commence à partir un peu en vrille, on se rend peut-être pas compte hein, tellement ça peut paraître brouillon, mais c'est extrêmement technique. C'est vraiment un groupe Yes qui va, en tout cas dans ces années-là, pousser les limites de la technique dans le rock progressif assez loin, parce que c'est un album qui va être constamment dans la recherche de la technicité, de la... certes des morceaux compliqués, mais des morceaux qui vont tellement faire avancer le rock progressif d'une manière significative. Et c'est tout justement ce qui va, entre guillemets, les perdre à la fin des années 70 et dans les années 80, c'est que le groupe avait la volonté, avec le retour de Rick Wakeman, de simplifier son propos, de simplifier sa musique, d'arrêter de chercher à produire de la musique compliquée. Et on change pas comme dit le proverbe, on change pas une équipe qui gagne. Et pour moi, Yes, ça passe certes par des grosses ambiances, par un timbre vocal de John Anderson assez exceptionnel, mais ça passe aussi, Yes, par une technicité monstre. Et on le ressent, par exemple, j'ai parlé de Michael Lagerfeld et de Steven Wilson, mais un autre groupe qui, je trouve, est extrêmement influencé par Yes, et là, pour le coup, ça s'entend vraiment, c'est flagrant, c'est le groupe transatlantique avec Ron Stolt, Mike Portnoy, Neil Marx, etc. On ressent vraiment une grosse, grosse influence Yes.
Écoute, moi, je te propose, maintenant qu'on en a beaucoup parlé, je te propose de faire écouter un extrait de l'album.
Ouais, faisons une pause, on va faire écouter du coup le morceau qu'on a choisi, qui est Si Barren.
Parce que c'est, d'un côté, c'est le morceau le plus court, mais c'est aussi le morceau le plus accessible. Donc, pour les gens qui connaissent, qui sont plutôt néophiles du rock progressif ou de Yes tout simplement, c'est un morceau, voilà, qu'est-ce que c'est Yes? Tu fais écouter ça, tu fais écouter Roundabout, mais j'en dis pas plus, c'est juste écouter cette merveille.
Et voilà, donc c'était Siberian Cthulhu, donc troisième morceau de cet album. Alors en conclusion, alors déjà, il y a quelque chose qui se dégage à travers les trois albums dont on a parlé. La place primordiale du rock progressif, c'est l'Europe, par rapport à ce qu'on peut dire aujourd'hui avec les groupes de metal progressif qui sont beaucoup américains. Donc là, je vais penser à des groupes comme Dream Theater, Psychotic Waltz, il me semble, qui sont américains aussi. Mais c'est la place forte du rock progressif, c'est l'Europe, et surtout l'Angleterre et la Grande-Bretagne en général. Les trois albums dont on a parlé aujourd'hui sont faits par des groupes anglais qui ont été enregistrés en Angleterre, et c'est une première donnée qui se dégage, c'est que le rock progressif et la musique progressive en général, surtout un héritage européen pour le coup. On parle beaucoup de la scène européenne et donc de la scène anglaise, mais en Europe, il y a aussi une scène, plusieurs scènes même qui sont très 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 prolifiques, qui l'ont été en tout cas, et dont on parle moins. Donc là, il y a la scène française, moi c'est mon branle-bas de combat, c'est vraiment la scène française, que ce soit dans la scène des premières vagues ou dans la scène actuelle, c'est une scène que je soutiens beaucoup, parce que je trouve qu'en France, on écoute beaucoup de musique, mais on n'écoute pas forcément ce qu'il y a de meilleur.
C'est vrai, c'est totalement vrai.
Pour le constater, vous avez juste allumé la radio, puis vous comprendrez.
Je fais une petite aparté, même si c'est pas un groupe de rock progressif, un groupe français, vous connaissez Marcel Sky ? C'est très très bien Marcel Sky.
Ah, j'en étais sûr. C'est obligé. Mais pour le coup, et d'ailleurs, tant que je vous parle de musique progressive, de musique progressive française, on va vous le dire maintenant, hein, le thème de l'épisode 2, parce que pourquoi pas, on va essayer de voir un peu ce que les gens vont nous dire, on va essayer de vous mettre à vos pronostics. Donc l'épisode 2 sera sur le métal progressif moderne français. Donc alors je suis intimement persuadé que personne ne trouvera, à part les personnes qui ont accès au doc. Je suis persuadé, je sais pas ce que t'en penses, mais je suis persuadé que personne ne trouvera.
Trois albums que toi tu as choisi, parce que moi je... C'est trop cool, je ne connaissais pas tout simplement. Mais voilà, j'en dis pas plus. On en parlera pour l'épisode, mais voilà, c'est des groupes qui sont pas très connus. À part un qui va parler à certaines personnes, mais les deux groupes.
Oui, parce qu'il y en a un qui est signé sur un gros label.
Mais voilà, et puis après, comme disait Manu, vraiment, si vous avez des retours à nous faire, que ce soit concernant le montage, concernant ce que l'on dit, n'hésitez pas, on prend toutes les critiques, et ça nous permettra d'améliorer, tout simplement.
Et sur ces belles paroles, je pense qu'on va tranquillement arriver vers la fin de l'épisode. Donc comme l'a dit Léo, n'hésitez pas à nous faire vos retours, que ce soit par nos Twitter respectifs, par le Twitter de l'émission ou même par nos Instagram. C'est avec plaisir qu'on prendra tout ça en compte. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur la page 8ème Studio, donc l'émission Dark Side of the Prog, comme dit au début de l'épisode, est une émission 8ème Studio, faut pas l'oublier. C'est pas pour rien aussi que je suis membre d'Expédition. D'ailleurs, vous connaissez Brutus ?
Ah, tu t'y mets toi aussi ?
Non, mais petite dédicace au copain Stan. Si vous avez des propositions d'épisodes aussi, de thèmes d'épisodes et de groupes qui sont pas forcément très connus ou qui, pour vous, méritent un autre regard, n'hésitez pas aussi à nous le dire sur nos réseaux sociaux. Il n'y a aucun souci, on vous accueille avec grand plaisir. Moi, sur ce, je pense qu'on va vous laisser ici. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est avec grand plaisir qu'on a préparé et enregistré ce premier épisode, en espérant que vous serez nombreux à écouter les prochains. Parce que sinon, ce serait triste qu'on fasse ça dans l'anonymat.
En espérant surtout que ça vous plaise.
Oui, aussi, parce que pour le coup, ça peut être écouté, mais ça peut être mauvais. C'est F.
C'est ça.
Sur ce, moi je vais vous laisser avec mon mot de la fin qui est cucurbitacé, et je vais vous laisser avec Léo pour le mot de la fin.
Tartine.
Évidemment, aucune connotation un peu salace. Sur ce, on vous fait des gros bisous, des gros câlins, mais pas trop parce qu'en période de Covid-19, faut éviter les barrières, tout ça. À la prochaine, prenez soin de vous, écoutez de la musique, surtout du prog, parce que le prog c'est la vie. Et bisous.
Au revoir.